France Inter, le 18-20.
Saviez-vous que le pamplemousse était très mauvais pour le foie? Saviez-vous que le café pouvait réduire de 38% la probabilité d'un cancer du foie? Est-ce qu'on peut avoir une cirrhose si on ne boit pas? Est-ce qu'il suffit de bien manger pour préserver son foie? Depuis que l'intestin et sa vie trépidante dans votre corps est devenu une vedette de littérature, tous ses voisins profitent de l'exposition. Le foie, en premier lieu, veut bien prouver qu'il existe. Le foie, ce mal-aimé dont on dit parfois qu'il est en crise, alors que pas du tout, c'est pas lui qu'il faut accuser. Quand ça fait mal, le foie, le plus gros morceau de l'intérieur de notre corps, un gros kilo 5, mais qui fait si peu parler de lui qu'on finit par l'oublier. Le foie pourtant est un outil indispensable dans la mécanique de notre corps et lui apporter des soins nécessaires vous aidera à vivre mieux et vivre surtout plus longtemps. Vous voulez des trucs, vous voulez des recettes, vous voulez un kit pour aider votre foie à survivre ces périodes de ripaille excessive que nous traversons. Vous voulez savoir comment fonctionne cette usine de transformation qui fait les 3-8. Vous vous interrogez sur la régénérescence de cet organe dont même la mythologie s'est emparée depuis que Prométhée a volé le feu à Zeus et porté la connaissance aux hommes. C'est dire la place du foie. On en parle ce soir au téléphone sonne.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Alexandre, c'est vous qui commencez. Bien le bonjour et bienvenue bonsoir. Dans le téléphone sonne.
Bonsoir Alexandre de Paris 14. Alors est-ce que si je mange comme je mange, j'aurai mal au foie et une espérance de vie plus longue ou plus courte? Je ne sais pas. Je prends des protéines, des œufs ou du filet maquereau ou des sardines. Je prends des légumineuses, à savoir des lentilles vertes, des flageolets, des haricots rouges ou des pois chiches. En alternance, bien sûr, le tout. Je prends des céréales, du riz basmati, du boulgour, du couscous, de la polenta et du quinoa. Et enfin, je prends des légumes. Avec tout ça, dans mes repas, je prends un ingrédient de chaque. Est-ce que j'ai des chances d'avoir mal au foie et ou une espérance de vie plus courte ou plus longue?
Donc, c'est très très réfléchi tout ça, Alexandre. En tout cas, c'est un régime que vous vous imposez depuis longtemps ou pas?
Oui.
C'est-à-dire depuis tout le temps, depuis toujours ou
depuis quelques années.
Et est-ce que ça marche? Est-ce que vous vous sentez bien? Parce que peut-être que la clé
bien,
est là aussi.
Je me sens en forme.
Eh ben, écoutez,
c'est à la fois bio et puis recommandé par les facultés.
Eh ben, écoutez, on va demander à la faculté ce qu'elle en pense et comment va se trouver votre foie. Bonsoir, professeur Gabriel Perlemutter. Vous avez écrit « Les pouvoirs cachés du foie », c'est publié chez Flammarion. Vous allez nous raconter un petit peu quels sont les secrets de cet organe qu'on connaît finalement très très mal. Et vous venez de raconter pourquoi aussi on s'intéresse plus et mieux, en fait, à la manière dont fonctionne notre corps. Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre ami Alexandre à l'instant avec un régime comme le sien?
Bonsoir Alexandre, on va dire qu'Alexandre est un homme parfait puisque il va protéger son
comme
foie.
Vous y allez.
Alexandre a une alimentation qui est très saine pour son foie et son foie va être heureux et en retour Alexandre qui rend heureux son foie va bien lui rendre en le laissant longtemps en bonne santé. Donc, continuez comme ça, Alexandre, ça me semble vraiment un bon rythme biologique pour votre foie.
Mais est-ce qu'il y a des recettes? Parce que alors, il y a une sorte d'idées reçues permanentes, pas de viande rouge, je disais tout à l'heure, pas de pamplemousse, des choses comme ça. Il y a des choses qui font mal au foie particulièrement ou pas?
Alors, déjà, le foie n'a pas de nerfs, donc le foie ne peut pas avoir mal quelque
alors,
part. Quand, par exemple, vous faites un foie gras, vous dites que vous le dénervez, en fait, c'est les canaux biliaires que vous enlevez. Et donc, le foie, en tant que tel, fait pas mal. Quand il est un peu gros, il va bomber sur la capsule qui l'entoure et on va ressentir quelque chose d'un peu sourd, mais c'est ce qu'il y a autour.
Mais alors du coup, quand je dis j'ai mal au foie, en fait j'ai mal où?
Eh ben en fait, quand vous dites vous avez mal au foie, ça peut être ou musculaire, ou c'est votre foie qui est un peu gros, qui bombe sur la capsule, vous pouvez sentir une pesanteur. Mais pour revenir sur ce que vous avez dit, le pamplemousse, il n'est pas dangereux pour le foie. En fait, le pamplemousse, le foie le métabolise très bien. Ce que le pamplemousse va faire, c'est qu'il va inhiber certaines fonctions du foie. Donc si le foie, il n'a pas de médicaments à métaboliser, ça ne lui pose aucun problème si vous prenez votre citerne de pamplemousse. En revanche, si vous prenez des médicaments pour votre tension, pour votre cholestérol par exemple, si vous prenez une pilule contraceptive, eh bien la prise de pamplemousse...
Attends, des pilules et pamplemousse, c'est pas recommandé?
C'est pas forcément recommandé. La prise de pamplemousse, en fait, va inhiber la dégradation des médicaments et quelque part, pour schématiser, au lieu de prendre un comprimé, c'est comme si vous en preniez 4 ou 5.
D'accord.
Donc le pamplemousse lui-même n'est pas toxique, mais va changer le métabolisme du foie. Il y a d'autres choses qui font ça. Par exemple, quand on est un peu triste, on va acheter du millepertuis.
Alors, j'ai lu ça dans votre livre. Non au millepertuis, attendez.
C'est pas non. C'est Si vous voulez prendre du millepertuis, vous en prenez, mais si vous prenez d'autres médicaments avec, vous allez activer là les fonctions du foie et donc vous ne prendrez pas une dose suffisante des autres médicaments que vous avez à côté.
Et pour quelles conséquences du coup ? Est-ce que ça veut dire que ça rend les médicaments inefficaces ?
Exactement. Soit certains vont être trop efficaces, donc on ne peut pas être trop efficace, mais vous allez avoir plus d'effets indésirables. Soit ce que vous prenez, si vous avez du millepertuis, vont devenir inefficaces parce que la dose sera insuffisante du fait de l'interaction avec le millepertuis ou inversement avec le pamplemousse. Pour revenir sur Alexandre, en fait, pourquoi il protège son foie ? Ce qui est toxique pour le foie, c'est toute la malbouffe qui nous entoure, et on peut en parler en cette période de fête, en fait. On a une alimentation qui tend à devenir trop sucrée. Et donc, le sucre, c'est pas juste le petit morceau de sucre que vous mettez dans votre café ou vous vous donnez bonne conscience en le mettant pas, c'est tout ce qui est autour de nous. Les féculents, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, mais également les boissons, les jus de fruits, également les comportes, les yaourts aux fruits. Tout ça, c'est trop d'accumulation de sucre.
Gabriel,
non, pas tout ce qui est bon quand vous prenez, par exemple, des légumes. C'est bon quand vous prenez du pain, mais en quantité raisonnable, vous mettez du fromage au lieu de mettre de la confiture. C'est bon également. Je dirais que je n'adhère pas au fait que c'est tout ce qui est bon.
Bah, si, en fait, dans ces périodes... on a plein de questions sur la période des fêtes. Par exemple, on a Nasser qui nous dit sur franceinter.fr, avec tous ces excès de fin d'année, combien de temps faudra-t-il au foie pour retrouver, au fond, son état normal ?
Le foie, un organe
nerveux. Parce que dites-nous qu'on a le droit de faire des excès en période de fête.
Absolument. Vous devez même faire des excès.
On peut se gaver en période de fête.
Vous pouvez vous gaver parce que votre foie régénère et après vous allez le protéger en quelques jours, quelques heures même. Votre foie, grâce à ses capacités d'adaptation et de régénération, va vous le pardonner.
Donc là, par exemple, on a tous mangé n'importe comment le 24 au soir et le 25 et c'était super.
Et vous allez recommencer la semaine prochaine.
Mais alors, là, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, du coup, là, on s'arrête cette semaine et le foie déjà reprend une activité normale, si je puis dire, ou est-ce qu'il faut beaucoup plus de temps que ça, donc il ne l'aura pas récupéré quand on lui en remettra une couche le 31.
Non, le foie va récupérer très vite. Vous allez par exemple prendre les jours qui suivent, vous allez diminuer votre apport en alcool, vous allez prendre de l'eau, vous allez prendre des tisanes avec par exemple la camomille qui va faciliter votre digestion.
Oh, pas la camomille.
Alors, okay. Vous prenez une autre tisane, vous prenez de l'eau, vous allez diminuer l'alcool, vous allez diminuer les boissons sucrées, vous allez prendre plutôt des bouillons salés, des jus de légumes, voire des légumes, et en 48 heures, votre foie va recouvrer les fonctions qu'il avait auparavant. Je dirais que c'est plus une question sur le long terme, comment protéger votre foie, mais les excès que vous allez faire pendant les fêtes, il vous le pardonnera très bien.
Parce que, au fond, pourquoi on dit finalement qu'on abîme notre foie puisqu'il se répare tout seul ? À partir de quel moment et de quel stade le foie ne se répare plus tout seul ?
C'est une histoire de longue haleine, en fait, sur le foie. Effectivement, votre foie, il va régénérer, donc il ira bien, il ira bien, il ira bien. Et il va cicatriser. Mais au bout d'un certain temps, quand même, quand vous allez être toxique pour votre foie, eh bien, les cellules du foie vont mourir. Et le foie régénère, mais après, il aura du mal à régénérer. Et il y aura une période de cicatrisation qui va apparaître. Et les cellules normales du foie vont être remplacées par du tissu fibreux. Un peu comme quand vous coupez, la peau qui arrive après devient moins souple et devient fibreuse. Et quand vous avez trop de tissu fibreux qui remplace les cellules normales du foie, c'est ce qu'on appelle la fibrose, puis la cirrhose. Et en fait, la cirrhose, c'est quoi ? C'est un état de cicatrisation du foie. C'est pas un cancer. Et comme vous avez été pendant 10, 15, 20 ans toxique pour votre foie, eh bien après, votre foie va cicatriser. Mais quand on commence à agresser son foie à l'âge de 20 ans, 20 ans ou 25 ans après, on n'a que 40 ou 45 ans.
Et c'est le sens de la question qu'on va prendre dans un instant. En attendant, je voudrais celle-ci de Romain sur franceinter.fr. Dans le sens de ce que vous disiez à l'instant, je fais souvent la fête le week-end, mais j'essaie de pas boire pendant la semaine. Est-ce que ça compense les excès de week-end ?
Pas forcément. Ça peut compenser ou ça peut ne pas compenser. Ça dépend de la susceptibilité individuelle. Si tous les week-ends, vous allez agresser votre foie, il est possible que vous allez le sensibiliser à cette agression-là et qu'à chaque fois, vous allez être de plus en plus toxique pour lui. Donc dans ce cas-là, vérifiez régulièrement la fonction de votre foie. Inversement, quand vous l'agressez un peu tous les jours, vous pouvez aussi être toxique pour lui. Donc vous pouvez l'agresser le week-end, mais je dirais pas tous les week-ends pour qu'il régénère bien. Et quand vous agressez votre foie le week-end, j'imagine qu'on pense à l'alcool, pensez qu'il y a autre chose que le foie dans votre organisme, essayez d'avoir une vision un peu plus holistique, vous allez agresser vos neurones, vous allez agresser votre cerveau aussi, et donc il y a autre chose que le foie quand on a quelque chose d'aigu dessus.
Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur Inter, Cyril, on vous écoute.
Oui, voilà, ben, moi j'ai appelé tout à l'heure, j'ai eu le standardiste qui était très aimable. Ben, voilà, moi je suis un ancien alcoolique, j'ai bu pendant 20 ans de ma vie et je suis abstinent depuis 22 ans maintenant. Et j'ai attrapé une hépatite C qui était latente, je l'ai gardée 30 ans. Et bon, bah, mon hépatologue m'a dit que du fait que j'étais abstinent pendant 20 ans, mon hépatite C n'était pas visible à l'échographie, elle était visible que sur les analyses sanguines. Et j'ai fait le troisième protocole de soins, et donc pendant 3 mois, et mon hépatite C est guérie. Et d'après mon hépatologue, j'ai un foie de jeune homme, j'ai 62 ans.
Eh ben merci pour ce témoignage, Cyril, Gabriel Perlemutter. Ça veut dire que 22 ans d'abstinence, foi de jeune homme, dit Cyril.
Bonsoir Cyril, déjà je vous félicite parce que ce sont des gros efforts pour une personne qui a des problèmes d'alcool pour devenir abstinent. C'est très compliqué, la personne qui réussit à devenir abstinent, vraiment c'est un grand courage qu'elle a et c'est un effort de tous les jours. Donc le témoignage de Cyril montre bien les pouvoirs du foie. Cyril a réussi à être abstinent pendant des années. Il était jeune quand il a décidé de le faire. L'hépatite C a guéri ou spontanément ou sous traitement. Et je voudrais profiter du témoignage de Cyril pour expliquer qu'il faut tous nous faire dépister au moins une fois dans notre vie sur l'hépatite C, car on a maintenant des traitements miraculeux qui permettent de guérir plus facilement qu'un rhume ou qu'une infection urinaire de l'hépatite C en 8 semaines avec peu d'effets indésirables. Et donc ça montre bien, une fois que l'hépatite C est guérie, qu'on arrête d'agresser le foie avec l'alcool, le foie n'est plus agressé, il n'a plus d'hépatite C, il n'a plus d'alcool, et bien il régénère et il est possible que la cirrhose de Cyril ait régressé. Et donc ça montre vraiment qu'il faut être optimiste, mais Cyril, quelque part, il a été lui-même son propre médecin en réussissant à arrêter d'intoxiquer son foie avec des boissons alcoolisées.
Mais ça veut dire que les dégâts qu'on peut faire à son foie ne sont jamais définitifs, ou peuvent-ils à un certain stade être définitifs, ou alors est-ce qu'on est inégaux finalement, que pour quelqu'un d'autre que Cyril, il y aurait encore des traces aujourd'hui, pour quelqu'un qui a bu moins longtemps, il y aurait des traces aujourd'hui, est-ce qu'on est inégaux finalement?
Alors on est tous inégaux, ça vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, la vie est injuste et la santé encore plus, mais ça vous montre que même quand on a le foie susceptible à l'alcool, et on ne l'a pas tous, certes, vous avez certaines personnes qui prennent de l'alcool qui ne seront pas toxiques pour le foie, d'autres où ce sera toxique beaucoup plus vite, c'est pareil pour l'hépatite C. Cyril a eu la malchance d'intoxiquer son foie avec l'alcool, que le foie était malade et que l'hépatite C a été toxique pour son foie, et donc ceci vous montre bien qu'il faut être optimiste. Vous avez certaines personnes qui vont avoir une cicatrisation qui va rester, une cirrhose qui va rester, mais si on arrête d'agresser le foie bien qu'il y ait une cirrhose, la cirrhose peut rester parfaitement compensée, on peut avoir une espérance de vie normale. Il faut rester optimiste.
J'ai lu dans votre livre qu'il y avait une inégalité homme-femme là-dessus, que les femmes étaient plus fragiles.
Alors absolument, ça dépend sur quoi. En fait, on va dire que avant la ménopause, quelque part, le foie des femmes est plus résistant, par exemple, à la malbouffe, mais que après la ménopause, eh bien, le foie de la femme devient aussi sensible que celui de l'homme. La femme a un métabolisme différent de l'alcool et des mêmes doses d'alcool vont être plus toxiques chez la femme que chez l'homme. Et enfin, la femme, en revanche, avant la ménopause, elle a plus de risques que l'homme de faire des maladies auto-immunes du foie, de détruire elles-mêmes leur propre foie. Mais c'est vrai qu'il y a des grosses différences entre les atteintes du foie qu'on peut observer chez l'homme et chez la femme.
Cette question de Bernadette sur franceinter.fr, on parle de plus en plus de la maladie du soda qui serait très dangereuse pour le foie. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus boire de soda? Comment peut-on la dépister par ailleurs?
Alors, c'est ce que je racontais au début. En fait, quand vous consommez du sucre, vous imaginez une oie ou un canard, puisque là, on a mangé du foie gras récemment, on va en reprendre. Comment vous faites du foie gras? C'est pas en donnant du gras à vos volatiles, à vos oies, à vos canards, c'est en leur donnant des céréales, des féculents. Faut imaginer que le féculent, c'est une grande chaîne de petits morceaux de sucre qui se donnent la main et vous en donnez beaucoup à votre organisme. Les sucres que vous allez
avoir... J'ai l'image en tête, là, des petits morceaux de sucre qui se donnent la main.
Et ben exactement. Et quand vous allez avoir ces morceaux de sucre qui vont être dans votre tube digestif, après, ils vont aller où? Au niveau du foie. Et votre foie, il ne sait pas stocker beaucoup de sucre, il sait en stocker globalement 60-75 grammes. Sachez que par exemple une baguette de 250 grammes, il y a 60% de sucre dedans. Donc quand vous mangez plus de 75 grammes de sucre, vous dépassez les capacités du foie à stocker ce sucre et donc il va faire de la graisse à la place pour stocker ce sucre-là. Et donc quand on prend du soda, où le soda c'est 120 grammes de sucre pour un litre, c'est-à-dire plus de 20 morceaux de sucre dans un litre de soda, et entre parenthèses, un litre de jus de fruits, même celui que vous faites à la maison, c'est la même quantité de sucre, votre foie avec ça va fabriquer de la graisse. Donc l'image, c'est la maladie du soda, mais c'est beaucoup plus que le soda. Quand votre foie fabrique de la graisse, vous imaginez vos cellules du foie, elles sont pleines de graisse. Elles vont pas être contentes, vos cellules du foie. Donc, il y a de la graisse qui va les gonfler. Elles vont quelque part un peu éclater. Elles vont mourir. Et donc, votre foie va régénérer pour compenser cette hépatite liée à la malbouffe, qu'on peut, au lieu de l'appeler hépatite malbouffique ou cirrhose malbouffique. Et donc, ça va être toxique pour votre foie.
Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de quantité? Est-ce qu'on peut dire ça aux gens? Effectivement, vous dites un litre, c'est 120 morceaux de sucre qui se tiennent la main. Si on boit une canette de soda par jour, est-ce que ça commence déjà à être dangereux? Et question subsidiaire, si on boit du soda avec des, comment on appelle ça,
des édulcorants,
exactement, est-ce que c'est mieux ou est-ce que finalement c'est pareil?
Alors, quand vous prenez par exemple une canette de soda chaque jour,
33 centilitres,
33 centilitres, il ne va rien vous arriver. Mais si vous prenez votre coca de 33 centilitres, votre canette de 33 centilitres, après vous mettez des frites, après vous mettez du pain, donc vous me voyez avec le grand burger, le soda, là, ça, vous allez dépasser les capacités du foie. Donc, il faut faire attention. Quand vous vous donnez bonne conscience, vous prenez des édulcorants, vous allez être toxique pour les bactéries que vous avez dans votre tube digestif et vous risquez de favoriser la survenue d'une résistance à l'insuline, voire d'un diabète. Donc, quelque part, si vraiment vous voulez prendre une canette par jour, faites-vous plaisir et prenez du vrai sucre plutôt qu'un édulcorant. Donc il faut faire, je dirais que une canette par jour, c'est pas grave, c'est quand ça va être tous les jours où vous aurez ce type d'alimentation.
Et puisqu'on est toujours dans l'alimentation, Didier à Nogent-sur-Marne sur franceinter.fr, est-ce que le régime végétarien protège le foie?
Alors, la question est très bonne. En fait, quand on regarde les patients qui viennent nous voir, on a très peu de végétariens. La viande peut être toxique pour le foie parce que en particulier la viande rouge, quand on en prend trop, la viande rouge va être transformée par les bactéries qu'on a dans le tube digestif et ensuite par le foie et composée, entraîner l'apparition de composés toxiques. Il se trouve que les personnes qui sont végétariennes, en général, font plus attention à leur santé que les personnes qui ne sont pas végétariennes. Donc, c'est pas en tant que tel être végétarien qui protège le foie. Je dirais que c'est vrai que le foie des végétariens est protégé, mais c'est tout un mode de vie où les personnes font plus attention à elles et globalement vont être protégées. C'est vrai qu'il n'y a pas d'atteinte du foie liée à la malbouffe en général chez les personnes végétariennes.
Allez, on retourne au standard, retrouver Nathalie. Bonsoir Nathalie. Nathalie, vous êtes là?
Oui, bonsoir.
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 Allez-y, on vous écoute Nathalie.
Oui, donc moi j'ai eu des traitements de chimiothérapie. On va dire que j'ai le foie, on va dire très fatigué, la digestion de manière globale. Et on m'a donné donc en extrait de plantes sèches, ça se présente comme un sirop, du radis noir, de l'artichaut et du desmodium. Et je voulais savoir vraiment l'efficacité du desmodium sur notre organisme ou le foie lui-même.
Merci Nathalie, professeur Gabriel Perlemutter, le desmodium.
Alors d'abord le foie fatigué, il faut voir les fonctions du foie, ça se mesure par une prise de sang si le foie est fatigué, et il faut faire attention à pas faire l'amalgame entre une digestion difficile et le foie fatigué. Ensuite les produits dont vous parlez, le desmodium, le radis noir, on peut en citer d'autres, on peut par exemple citer l'artichaut, le curcuma, le romarin, ce sont des plantes qui étaient utilisées, qui sont toujours utilisées par la médecine vietnamienne, la médecine chinoise. Et pour protéger le foie, on peut par exemple les trouver dans des magasins bio. Il est bien démontré sur des cellules en culture que ce type de plante protège, quand on met en culture des cellules du foie, les protège contre certaines toxicités. Quand vous prenez des souris et que vous leur donnez ce type de produit, vous protégez également le foie de certaines toxicités. Le niveau de preuve chez l'homme est plus faible, voire inexistant. Cela dit, si on considère qu'on est une grosse souris, qu'on n'est pas très différent d'un petit mammifère, il n'est pas illogique, alors qu'on n'a rien d'autre à proposer, si on a le foie malade, de donner ça. Et puis après, on suit les enzymes du foie, voir si elles bougent ou pas. Mais le niveau de preuve, il y a une logique scientifique à vouloir en donner. Le niveau de preuve chez l'homme est inexistant.
Tiens, il y a une question sur Twitter d'un médecin qui nous suit et que je salue au passage, qui dit « Par pitié, dites qu'il n'y a pas besoin de détox. » Est-ce que c'est une légende, cette histoire de détox, qu'il faut faire le vide dans son foie, en gros, et arrêter de manger pendant une journée, deux journées, ou boire du bouillon de légumes pendant deux jours pour détoxer tout ça?
Alors, déjà, on va inverser les choses. C'est pas nous qui détoxifions le foie, c'est le foie qui nous détoxifie. C'est son rôle, c'est une usine de pour nous épurer.
Mais en tout cas, ça sert à quelque chose, la détox, ou pas? Ou c'est une légende?
Donc, j'arrive sur la détox. En fait, chez quelqu'un qui est en surpoids, qui a un diabète, qui a une hypertension, qui a trop de cholestérol, il a globalement, effectivement, probablement, un foie qui est trop gras. Donc la détox, c'est quoi? C'est se mettre à un jeûne ou se mettre à consommer plus de légumes et arrêter la consommation habituelle de la malbouffe. Donc là, cette personne va effectivement protéger son foie et il faut prendre ce qu'on appelle la détox comme une protection ponctuelle du foie, comme un tremplin, comme une bonne résolution pour l'année qui vient pour ensuite protéger son foie. Ensuite, il y a des études qui ont été faites, par exemple, chez des souris ou dans des levures où on met de temps en temps à jeun des souris ou des levures qui sont en culture et on observe que effectivement elles vont vivre plus longtemps. Et donc, après, il y a un amalgame qui est fait en disant, eh bien, on va faire attention à nous, en nous mettant nous-mêmes en période de jeûne intermittent. Et je dirais que là, il faut faire très attention. Ça vient d'où? Ça vient du fait que quand on demande à quelqu'un qui est en surpoids de faire un effort pour perdre du poids, c'est extrêmement compliqué. Si c'était pas compliqué, il y aurait plus de problèmes de surpoids et d'obésité alors qu'on n'arrive pas à perdre de poids. C'est aussi difficile de perdre du poids que, par exemple, d'arrêter l'alcool. Et donc, l'idée d'un jeûne intermittent, c'est de pouvoir pallier à ces difficultés de perte du poids. Est-ce que si je jeûne de temps en temps, je vais améliorer mon foie ou pas? Et donc, on sait pas bien, il semble que chez certaines personnes, un jeûne intermittent, ça pourrait aider dans certaines études, dans d'autres ça n'aide pas, le niveau de preuve est encore faible. Globalement, ce qu'il faut éviter, c'est faire un jeûne et puis ensuite avoir un effet yo-yo où là ça va être encore plus grave.
Et on peut se faire mal avec un jeûne quand même, non?
On peut se faire mal avec un jeûne si après on prend du poids. Ça a été par exemple étudié au cours du Ramadan, où c'est un jeûne intermittent, où après le Ramadan, le soir, les personnes compensent en mangeant plus, donc là on perd le bénéfice du jeûne. Si on fait attention derrière, dans ce cas-là, le jeûne pourrait, chez certaines personnes, à certains âges et pas tout le temps, avoir un effet bénéfique au vu de ce qui est raconté dans certaines études préliminaires.
Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Jacques, on vous écoute.
Voilà, je pose une question. On n'entend jamais parler de cette chose bizarre qui s'appelle la stéatose. La stéatose hépatique en ce qui me concerne. Tout ce que je sais, on me l'a découverte par un prélèvement, là, avec une méchante aiguille. C'est très désagréable. Mais on m'a dit, mon ami, vous avez une stéatose et vous allez vivre avec. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Eh bien, c'est l'encombrement des cellules par des graisses, des cellules hépatiques. Alors, est-ce que c'est bien ça? Et est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'il y a un traitement? Moi, j'ai pas de traitement et j'ai bientôt 99 ans.
Ah ben, ça a l'air d'aller, Jacques.
C'est peut-être à cause de ça, d'ailleurs.
Merci. Ben, écoutez, formidable. 99 ans, félicitations. Vous avez une voix bien plus jeune que votre âge. Gabriel Perlemutter, c'est quoi la stéatose hépatique dont parle Jacques?
Alors, la stéatose hépatique, c'est la accumulation de graisse au niveau du foie. Et c'est ce que j'expliquais, c'est quand vous mangez, il y a deux grandes causes de stéatose. Il y a d'une part l'alimentation trop riche en sucre et le sucre va être stocké sous forme de graisse dans le foie et une consommation excessive d'alcool qui va entraîner la formation de graisse dans le foie. On est tous inégaux, vous avez certains types de stéatose, c'est-à-dire d'accumulation de graisse dans le foie. La stéatose, en fait, c'est comme un foie gras, comme celui qu'on mange. Imaginez votre foie gras, c'est le foie que vous avez, c'est un foie stéatosique. Donc vous avez chez certaines personnes où ce sont des graisses neutres qui vont s'accumuler au niveau du foie, qui ne vont pas être toxiques et qui pourront même être protectrices. Et vous avez d'autres personnes où la stéatose va refléter l'apparition de graisses toxiques avec la formation de radicaux libres, un peu comme des petits missiles au niveau du foie qui vont aller détruire l'ADN, détruire les membranes cellulaires. Et chez ces personnes-là, là, le foie gras, la stéatose va être toxique.
Mais on fait rien du coup ? Qu'est-ce qu'on dit à Jacques ? Alors, c'est peut-être lié à son âge.
À Jacques, s'il a 99 ans, lui dit surtout de ne pas aller voir de médecin et de rester avec sa stéatose au moins jusqu'à 120
ans. Mais sinon, si on me trouve une stéatose à moi qui est 28 ans, alors, qu'est-ce que je fais ?
Alors, si on vous trouve une stéatose à 28 ans, on va vous doser les enzymes de votre foie, on va voir comment elles sont. Si votre stéatose, et ce sont des graisses neutres ou des graisses toxiques pour votre foie, et en fonction de ce qu'on va trouver, on va essayer de modifier votre alimentation pour que votre foie ne soit plus engorgé de graisse.
Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
Vous avez une question qui ressemble à ce qu'on disait tout à l'heure, mais je vous en prie, allez-y avec un exemple particulier.
Alors en fait, moi je voulais vous parler d'une méthode qui est très pratiquée. Je crois que ça vient des États-Unis. En fait, c'est quelque chose d'assez radical où ils parlent d'un nettoyage des calculs biliaires du foie. Et en fait, pendant 6 jours, vous faites un traitement, enfin, vous mangez léger. Le 6e jour, c'est un mélange pamplemousse, huile d'olive, et après, avec du sel de gemme pour se purger. Et dans vos selles, vous retrouvez plein de cristaux, de calculs. Alors, on n'arrête pas de parler de ça. Il y a des gens qui disent que c'est hyper dangereux de le faire, et voilà, je voulais avoir votre avis.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, Gabriel Perlemutter ?
Alors oui, alors faut faire attention aux États-Unis, c'est souvent le monde de l'exagération. Donc juste pour éclairer, les calculs biliaires, c'est votre foie qui fabrique la bile. Les calculs ne sont pas dans le foie, ils sont dans la vésicule biliaire. Quand on a des calculs biliaires, le plus souvent, c'est qu'on est en surpoids et donc la bile va se modifier ses composants et donc va former des calculs. Et donc c'est aux États-Unis où l'espérance de vie commence à diminuer à cause de l'obésité. On va dans l'autre extrême, on se met à faire n'importe quoi, mais dans l'autre sens. Et donc, effectivement, ce sont des personnes qui ne s'occupent pas d'elles-mêmes. Et donc, on va s'occuper d'elles-mêmes, on va prendre soin d'elles, on va leur faire des massages, on va leur changer leur alimentation, on va les forcer à faire de l'exercice physique, on va les coacher. Et pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours, elles iront effectivement mieux. Et on espère, par ce type de méthode, que les personnes seront éduquées pour poursuivre cette amélioration-là. Si c'est juste pour s'arrêter au bout de 5, 6 ou 7 jours, ça n'a aucun intérêt parce qu'on arrive dans le yo-yo qui est effectivement très toxique. Si c'est un tremplin pour prendre une bonne résolution pour après s'améliorer, oui, là ça peut porter ses fruits. C'est comme le jeûne intermittent. Vous jeûnez 5 jours pour vous épurer, si après vous faites le yo-yo derrière, ça n'a aucun intérêt. Quand vous jeûnez 5 jours, en fait vous allez manger plus léger, c'est pas un vrai jeûne, vous allez prendre des légumes, vous allez prendre moins de graisse, vous allez prendre moins de sucre, vous allez améliorer votre foie et surtout vous allez essayer de continuer à le faire derrière.
Alice sur franceinter.fr nous dit « J'ai souvent de violentes migraines et le paracétamol est plus efficace pour m'apaiser. Mon médecin dit que ça peut être dangereux pour mon foie. Comment faire ? Quelle est la limite à ne pas dépasser ?»
Alors, pour le paracétamol, quand on le prend à une dose normale, le foie, il arrive bien à l'épurer, il n'y a pas de problème.
Mais c'est quoi normal, pardon ? Si c'est 2 toutes les 4 heures, par exemple, quand on est vraiment super enrhumé, c'est alors, trop ou pas ?
On conseille de ne pas dépasser 1 gramme. Donc, il faut faire attention, il y a des comprimés ou des gélules à 500 mg et 1 gramme toutes les 8 heures, pas pendant trop longtemps. Mais il faut savoir que quand vous prenez par exemple de l'alcool, votre foie va devoir épurer à la fois le paracétamol et à la fois l'alcool. Mmh. Et dans certains cas, il ne peut pas faire les deux. Et avec une dose normale de paracétamol, par exemple 2 ou 3 grammes par jour, eh bien, si vous prenez de l'alcool avec, même cette dose-là peut être toxique, peut entraîner une atteinte très grave du foie. C'est ce qu'on appelle en fait la mésaventure au paracétamol.
D'accord. Et alors, les conséquences peuvent être quoi ?
Les conséquences peuvent être dramatiques. Imaginez que le paracétamol, quand on en a trop, mais pas à dose normale, va détruire les cellules du foie. Les cellules du foie vont toutes mourir d'un coup. Et votre foie, s'il ne peut pas régénérer, eh bien vous allez mourir parce que vous n'aurez plus de foie. Et donc, le traitement, c'est une greffe hépatique en urgence. Ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser les doses prescrites de paracétamol et ce n'est pas parce que c'est un médicament qui est en vente libre qu'on peut faire n'importe quoi.
Question d'Héloïse de Bordeaux. Est-ce qu'on peut avoir une cirrhose sans boire excessivement ?
Alors absolument. La cirrhose, il y a un lieu commun qui dit cirrhose alcoolique. La cirrhose est liée à l'alcool. Mais on vient de voir que la malbouffe était la première cause d'atteinte du foie sous nos contrées. Et donc on peut très bien faire une cirrhose malbouffique, c'est-à-dire la maladie du soda. Faites une cirrhose parce que vous mangez pas bien. Vous pouvez faire une cirrhose liée à une infection par le virus de l'hépatite C. Donc faites-vous dépister, guérissons de l'hépatite C. Donc c'est la cirrhose virale. Vous pouvez avoir une maladie immunitaire du foie et donc faire une cirrhose auto-immune. Et donc, faut sortir du lieu commun en culpabilisant les personnes, en disant, vous avez une cirrhose, vous buvez trop d'alcool. Déjà, quand on boit trop d'alcool, c'est pas la peine de culpabiliser les personnes parce que ça rend service à personne. Et de plus, il y a plein d'autres causes de maladie du foie que la maladie du foie liée à l'alcool.
Et j'ai lu dans votre livre aussi qu'on pouvait avoir une cirrhose sans se rendre compte qu'on avait un excès de boisson au fond. C'est-à-dire quelqu'un qui boit un verre tous les jours en rentrant du boulot peut aussi développer une cirrhose alors qu'il ne roule absolument pas sous la table, il n'y a pas d'excès particulier.
Alors effectivement, la cirrhose n'est pas synonyme d'ivresse quand c'est une cirrhose liée à l'alcool. Si par exemple vous êtes un peu en surpoids, donc votre foie doit épurer votre surpoids et en plus vous arrosez ce surpoids de 3 verres d'alcool tous les jours, là l'alcool et le surpoids vont être toxiques et sans jamais avoir été ivre, vous pouvez faire à l'âge de 50 ans, 55 ans, une maladie grave du foie, voire une cirrhose. C'est pas avec un verre d'alcool qu'on va faire une cirrhose. Il faut aussi sortir de ça, mais faut aussi savoir que on peut très bien faire une cirrhose liée à l'alcool sans jamais avoir été ivre, pour peu qu'il y ait eu pendant une quinzaine d'années 4 verres d'alcool par jour, 4 verres de vin par jour.
Tiens, Gabriel s'inquiète, il nous dit, j'ai entendu dire que le café était donc très bon pour le foie, mais très mauvais pour le cœur. Du coup, on ne sait plus très bien où donner de la tête avec tous ces conseils qui vont dans tous les sens. Alors, café, pas café?
Alors, effectivement, le café...
donné le chiffre tout à l'heure, vous dites dans votre bouquin 38% de chance, de probabilité en moins d'avoir un cancer de...
Absolument. Le café est une boisson, indépendamment de la présence de caféine, qui est très bonne pour le foie, mais c'est pas parce qu'on dit que le café est très bon pour le foie qu'il faut aller en prendre des litres, parce que là, vous aurez les effet indésirable du café avec la caféine qui va être toxique pour votre cœur. Mais si vous prenez 2 ou 3 tasses de café par jour, eh bien là, vous n'aurez pas de problème, ou une tasse de café.
Mais donc c'est bon, mais c'est bon aussi, ça préserve même.
Le café est une boisson qui préserve votre foie, effectivement.
Est-ce que c'est la caféine ou est-ce que ça marche pareil si on prend du déca? Du coup, c'est moins mauvais pour le cœur.
Alors c'est pas que la caféine. Et c'est même pas le café expresso, mais vous avez aussi le café filtre qui serait encore plus protecteur que le café expresso.
Il y a une raison à cela?
Parce que les concentrations, différents produits qui protègent le foie aux antioxydants ne sont pas les mêmes en fonction de la méthode d'extraction du café, de consommation du café.
Allez, une autre question, elle vient d'Antoine cette fois. Je suis boxeur. On m'a toujours dit que le coup au foie était terrible. Pourquoi cet organe est-il particulièrement sensible?
Alors, le coup au foie, effectivement, est terrible, mais pas seulement sur le foie. J'anticipe que si vous prenez un coup ailleurs que sur le foie, ça vous aurez mal aussi. Dangereux pour 2 raisons. D'une part, ça peut empêcher de respirer parce que le foie est juste sous le diaphragme. Mais d'autre part, le foie est entouré d'une capsule. Et puis, si vous lésez la capsule du foie, ben, vous allez pouvoir faire une hémorragie interne très grave. Et donc là, ça peut être très embêtant.
Mais est-ce que c'est plus grave au fond qu'un grand coup à l'estomac?
Non, pas forcément.
Est-ce que ça se dit, parce qu'on a l'impression que ça se dit chez les boxeurs, que en gros, protège ton foie, quoi?
Pas forcément. Si vous prenez un coup grave sur la rate, vous pouvez aussi avoir une hémorragie très grave au niveau de la rate.
En ces périodes de fêtes, à nouveau beaucoup de questions sur les excès qui peuvent être infligés à notre foie pendant ces périodes de fêtes-là. Peut-on répéter le même genre de nourriture le 25 décembre et le 31? Je pense par exemple, vous n'avez cité le cas du foie gras par exemple, ou pour éviter un traitement trop excessif, est-ce qu'il vaut mieux essayer de varier les plaisirs entre ces deux fêtes qui sont très rapprochées?
Non, si les deux fêtes sont rapprochées, prenez plaisir à vos deux fêtes, et entre les deux fêtes, entre le 25 et le 31, faites attention à vous, soyez plus léger. Si vous avez déjà une maladie du foie sous-jacente, simplement, j'aurais conseillé d'éviter l'alcool pour protéger le foie, parce que quand on a déjà le foie malade, rajouter de l'alcool peut décompenser un foie qui va bien. Donc là, il faut y faire attention. Mais sinon, profitez de vos 2 réveillons et puis votre foie vous le rendra bien parce qu'il régénérera et vous serez bien après.
Il y a beaucoup de questions sur ces histoires de cure qu'on a déjà ou de détox qu'on a déjà évoquées. Preuve qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très à la mode par ailleurs. Aussi, il faut toujours se méfier des modes. Aurélie nous dit qu'on en vend de plus en plus en pharmacie pour la détox du foie. Elle dit qu'elle comptait peut-être investir là-dedans après les fêtes. Souvent, c'est très cher. Est-ce qu'il y en a, quand elles sont bon marché, qui réellement remettent le foie d'aplomb? Alors, on n'a pas oublié ce que vous nous avez expliqué précédemment, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut aller en pharmacie quand c'est pas très cher, sans trop de crainte?
Alors, votre foie lui-même va vous remettre d'aplomb, et donc, je dirais, si vous avez le foie qui va bien, au lieu d'aller vous alléger d'euros en prenant ces suppléments, ou c'est du radis noir, ou c'est de l'artichaut, ou c'est du romarin, eh bien, faites-vous votre cure de soupe de légumes, allez acheter acheter du radis noir et puis saupoudrer ça avec avec un peu d'herbe comme du romarin et garder votre argent pour autre chose. Il y a tout un marché aussi qui se développe
sûr,
là-dessus.
C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de mode en fait.
Voilà. En revanche, il est vrai que si vous êtes en surpoids et vous n'arrivez pas à perdre de poids, on n'a pas grand-chose à vous proposer et donc certaines personnes vont se réfugier derrière ce type de produit parce qu'elles sont déjà malades au départ et là le niveau de preuve est très faible quant à une éventuelle efficacité. Il faut faire des prises de sang régulières pour voir si ça fonctionne. Ce ne sont pas des traitements recommandés. On sait que ça peut fonctionner chez la souris, on ne sait pas chez l'homme.
Patrick, au 01 45 24 7000 nous attend. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir. Voilà, je vous téléphone pour ma femme qui a deux angiomes au foie, dont un de 7 cm. Je voulais savoir comment ça apparaît et quels sont éventuellement les traitements et les précautions à prendre pour garantir une bonne santé de son foie.
Merci Patrick. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Patrick, Gabriel Perlemutter?
D'abord, je répondrai la première chose, c'est comment on a fait pour diagnostiquer des angiomes à votre épouse, puisque ça veut dire qu'on est allé regarder son foie, donc probablement elle se plaignait de quelque chose.
Ou elle avait Patrick, vous êtes encore là?
Oui, absolument, oui, tout à fait, c'est tout à fait ça, oui.
Donc elle avait mal, en
et
gros,
de quoi se plaignait-elle?
Alors, elle avait à la fois des douleurs précises au niveau du foie et en même temps une fièvre. Il était lié à ces symptômes.
Alors, il n'est pas du tout évident que la fièvre et les douleurs au niveau du foie, même avec un angiome de 7 cm, soient liés à l'angiome. Un angiome est quelque chose de bénin qui n'évolue pas, qui ne dégénère pas et qui ne nécessite pas de surveillance particulière. Lorsqu'ils sont gros, ils peuvent donner quelques anomalies à la prise de sang, mais ce n'est pas une maladie en tant que telle et ça ne nécessite pas de traitement particulier. Et je suis surpris que la fièvre de votre épouse soit liée à ces angiomes-là.
Quelles sont les maladies que... Pardon, Patrick, je sens que vous vouliez ajouter quelque chose, je vous en prie.
Oui, alors comment apparaît un angiome en fait?
Un angiome, ça apparaît à la naissance. Un angiome, c'est pas une maladie du foie. Un angiome, une fois qu'on l'a, il faut juste l'oublier parce qu'il va rien vous faire et vous allez vivre tranquillement avec lui.
Donc là, dans ce cas-là, pareil, traité par
sous réserve, je suis pas là pour faire une consultation par radio. Je n'aurais pas traité les angiomes et je ne les aurais même pas surveillés sous réserve que le diagnostic soit certain.
Ça existe les maladies psychologiques qui se retrouvent.
Là, on n'est pas dans une maladie
psychologique. On est d'accord, mais c'est la suite. Une suite de questions. Est-ce que ça existe, les maladies psychologiques qui se retrouvent sur le foie ou pas?
Alors, je dirais que quand on a un stress, vous avez un gros stress, vous êtes anxieux, il y a un événement violent qui vous arrive, eh bien là, vous pouvez déclencher une maladie du foie. Ça, c'est connu. Mais il n'y a pas de stress qui va déclencher en tant que tel une maladie du foie. Le stress va plus se reporter sur vos bactéries digestives et entraîner des douleurs au niveau de votre intestin.
Au fond, ça sert à quoi le foie, professeur?
Imaginez-le comme une grosse usine du 21e siècle.
C'est une usine à transformation qui fait les 3-8 en gros.
Exactement. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous mettez dans votre tube digestif, eh bien, vous considérez ça comme les matières premières de votre usine foie. Le foie va tout capter, va tout transformer en briques qui vont vous composer. Et dans ces briques, il va mettre certaines choses qu'il aura fabriquées pour vous faire fonctionner sur votre squelette de briques. Et il va ensuite aller en bon écolo, tout épuré, après avoir fabriqué tout ça, pour qu'il n'y ait pas de toxicité qui reste dans votre organisme. L'alcool va être épuré en vinaigre, les protéines vont être épurées d'abord en ammoniac et puis après en urée. Et donc, tout ça fait que, grâce à l'usine foie, votre organisme fonctionne parfaitement bien.
Est-ce que le foie attrape des virus?
Absolument. Les grands virus, c'est l'hépatite B, l'hépatite C. Il y a d'autres virus comme l'hépatite A, l'hépatite E. Je voudrais dire un mot sur l'hépatite C, qui est quelque chose de miraculeux pour les médecins de ma génération. J'ai commencé médecine, l'hépatite C n'existait pas. On parlait d'hépatite non A, non B, ça faisait peur. Et aujourd'hui, en 2018, bientôt 2019, on est capable de guérir tous les patients qui ont une hépatite C. J'ai vu trop de personnes mourir d'une hépatite C pour que ça continue. Donc faites-vous dépister, faites-vous traiter. En 8 à 12 semaines, vous êtes guéri sans effet indésirable.
Eh bien, c'est bien de finir sur cette note optimiste. Merci beaucoup. On a aussi entendu qu'on pouvait profiter très largement des fêtes. Il suffisait juste de rester
de
zen après
derrière.
Et de faire attention quand même à ne pas prendre n'importe quoi en détox. Gabriel Perlemutter, merci mille fois. Merci à tous pour vos questions, comme d'habitude, et portez-vous bien.